Alors je vous propose maintenant un petit appareil critique pour vous donner une idée de la réception de la pièce au cours du 19e siècle. Alors cet appareil critique commence par un texte de Théophile Gautier, très élogieux, et se poursuit par un texte d'Émile Zola, beaucoup plus critique, même si vous verrez qu'il comprend aussi des pans très élogieux. J'achèverai sur une sorte d'entretien avec Victor Hugo, à la fin du 19e siècle, peu avant sa mort, en forme de réponse à Émile Zola. Donc je commence par un texte de Théophile Gautier, texte publié dans un ouvrage intitulé Victor Hugo, chapitre 22, et que Théophile Gautier écrit à la suite de la reprise de la pièce en 1872. Il avait vu l'une des toutes premières représentations de la pièce, en 1838 même, lors de sa publication, et il la revoit donc 34 ans plus tard. Notez que je me suis permis quelques coupes à même le texte. Reprise de Ruy Blas, 28 février 1872. Pour nous qui avons vu la première représentation de Ruy Blas au Théâtre de la Renaissance qu'elle inaugurait, cette reprise si longtemps annoncée du beau drame de Victor Hugo avait, outre son intérêt propre, un indéfinissable charme mélancolique. En glissant sur leur bronze ou leur marbre, les années ne font qu'y ajouter la patine et le poli suprême. Ruy Blas nous a paru aussi beau, plus beau peut-être que la première fois. Malgré le temps écoulé, nous nous sommes sentis comme à 20 ans, emportés par ce grand souffle de passion. Nous avons éperdument aimé la reine et franchi avec Ruy Blas le grand mur hérissé d'une broussaille de fer pour lui apporter les petites fleurs bleues d'Allemagne cueillies à Coramanchel. Don Salluste, ce Satan grand d'Espagne, nous a inspiré la même suffocante terreur, et le joyeux bohème Zaffari, jadis Don César de Bazan, le même entraînement sympathique. Nous avions retrouvé nos pures impressions de jeunesse, et le romantisme endormi qui est toujours en nous s'est réveillé, prêt à recommencer les luttes d'Hernani. Mais il n'en était pas besoin. Chez Victor Hugo, le poète dramatique n'est plus contesté. Il a forcé les plus rebelles à l'admiration. Dans l'œuvre dramatique de Victor Hugo, Ruy Blas est l'une des pièces qui nous plaît le plus. La charpente du drame s'emmanche avec une précision qui ne laisse pas apercevoir les jointures, car l'intrigue s'y meut à l'aise, malgré ses complications et ses tortuosités. Le sujet est un de ceux qui excitent le plus l'imagination et qu'on retrouve au fond de chaque jeune cœur, à l'état de rêve secret. Sortir brusquement de l'obscurité par un coup du sort qui ressemble à de la magie, et s'élever d'un vol rapide vers l'amour idéal, radieux, sublime, l'amour dans la majesté et la toute-puissance, ce qui se rapproche le plus de la divinité sur terre, en un mot, être l'amant de la reine. À cette ivresse, à cet éblouissement, à ce vertige des hauts sommets, se mêle l'appréhension perpétuelle de la chute inconnue. Sur ce plancher qui semble ne cacher aucun piège, peut s'ouvrir une trappe précipitant la victime en quelques gouffres de ténèbres. D'une porte cachée, va peut-être déboucher, silencieux, glacial, implacable, comme la haine et la vengeance, ce diabolique Don Salluste qui, mettant sa main sur l'épaule du malheureux, lui arrachera la peau de Don César de Bazan pour ne lui laisser devant la reine que sa casaque de laquais. Quelle situation tragique et poignante! Travailler malgré soi, et sans savoir comment faire, par une nécessité inéluctable, au piège que le démon tente à l'ange adoré, et dont on pressent dans l'ombre les rouages compliqués et formidables. Tous ces personnages sont dessinés et peints comme des portraits de Velázquez, avec une maestria souveraine, une force de couleur, une liberté de touche, une grandeur d'attitude et un sentiment de l'époque qui fait illusion. Que de fois ne l'avons-nous pas rencontré, ce marquis de Finlas, au Prado, à l'Escurial, à Aranjuez, lui ou quelqu'un de sa race, dans un cadre blasonné, riche, vêtu de noir, avec ses yeux de braise trouant sa face morte. Combien d'heures sommes-nous restés pensifs devant ces pâles infantes, ces reines exsangues, ces mortes devenues fantômes, n'ayant d'autres traces de vie, sous les blancheurs argentées des salons et sous le ruissellement des perles, que le carmin de leurs lèvres et les plaques de fard de leurs pommettes. Toute l'Espagne picaresque vit dans cette étonnante figure de Don César de Bazan, qui est pour l'œuvre de Victor Hugo ce que l'étincelant Mercutio est pour l'œuvre de Shakespeare. Quelle élégance encore sous ce délabrement! Quel beau haillon noblement porté! Quelle hauteur d'âme dans cette misère et quel effrayant et philosophique oubli des prospérités disparues! Comme il reste loyal, délicat et fier à travers ses désordres, cet ami de Matalobos et de Gulatremba, comte de Garofa, puis de Villalcazar. Et Don Guritan, le grotesque rival de Ruy Blas, quel bon type de la vieille galanterie espagnole! C'est Don Quichotte à la cour, ayant la reine pour Dulcinée du Toboso. À quoi bon insister si longtemps sur des choses si connues? Faisons plutôt remarquer que jamais la vie dramatique ne fut menée avec une aisance si souveraine, avec une puissance si absolue. Le poète, lui, peut tout exprimer, depuis les effusions les plus lyriques de l'amour jusqu'aux minutieux détails d'étiquette, de blason et de généalogie. Depuis la plus haute éloquence jusqu'à la plaisanterie la plus hasardeuse, passant du sublime au grotesque sans le moindre effort, mêlant tous les tons dans le plus magnifique langage que le théâtre ait jamais parlé. La franchise de Molière, la grandeur de Corneille, l'imagination de Shakespeare, fondue au creuset d'Hugo, forment ici un airain de Corinthe supérieur à tous les métaux. Lors de l'entrée de Ruy Blas au répertoire de la Comédie-Française en 1879, Émile Zola en propose une virulente critique, que je vais vous lire maintenant. Vous pouvez la retrouver sur le site web de Gallica, au sein des œuvres complètes illustrées d'Émile Zola, parues en 1906, dans le tome 32. Les nations honorent leurs grands hommes. Elles se montrent surtout reconnaissantes pour les écrivains illustres qui laissent des monuments impérissables dans la langue. Homère et Virgile sont restés debout sur les ruines de la Grèce et de Rome. C'est ainsi que le monument poétique de Victor Hugo sera indestructible, et que notre siècle doit avoir l'orgueil de cette construction superbe qui fixera la langue française et la portera aux siècles les plus reculés. À ce titre, nous ne saurions trop acclamer le poète. Il est grand parmi les plus grands. Il a été un rhétoricien admirable et il demeurera le roi indiscuté des poètes lyriques. Mais il faut ensuite distinguer. À côté de la forme, du rythme et des mots, à côté du monument de pure linguistique, il y a la philosophie de l'œuvre. Elle peut apporter la vérité ou l'erreur. Elle est le produit d'une méthode et devient fatalement une force qui pousse le siècle en avant ou le ramène en arrière. Si j'applaudis Victor Hugo comme poète, je le discute comme penseur, comme éducateur. Non seulement sa philosophie me paraît obscure, contradictoire, faite de sentiments et non de vérité, mais encore je la trouve dangereuse, d'une détestable influence sur la génération, conduisant la jeunesse à tous les mensonges du lyrisme, aux détraquements cérébraux de l'exaltation romantique. Et nous venons bien de le voir à cette représentation de Ruy Blas, qui a soulevé un si grand enthousiasme. C'était le poète, le rhétoricien superbe qu'on applaudissait. Il a renouvelé la langue, il a écrit des vers qui ont l'éclat de l'or et la sonorité du bronze. Dans aucune littérature, je ne connais une poésie plus large ni plus savante, d'un souffle plus lyrique, d'une vie plus intense. Mais personne, à coup sûr, n'acclamait la philosophie, la vérité de l'œuvre. Si l'on met à part le clan des admirateurs farouches, de ceux qui veulent faire de Victor Hugo un homme universel, aussi grand penseur qu'il est grand poète, tout le monde hausse les épaules aujourd'hui devant les invraisemblances de Ruy Blas. On est obligé de prendre ce drame comme un conte de fées sur lequel l'auteur a brodé une merveilleuse poésie. Dès qu'on l'examine, au point de vue de l'histoire et de la logique humaine, dès qu'on tâche d'en tirer des vérités pratiques, des faits, des documents, on entre dans un chaos stupéfiant d'erreurs et de mensonges, on tombe dans le vide de la démence lyrique. Le plus singulier, c'est que Victor Hugo a eu la prétention de cacher un symbole sous le lyrisme de Ruy Blas. Il faut lire la préface et voir comment, dans l'esprit de l'auteur, ce laquais amoureux d'une reine personnifie le peuple, tendant vers la liberté. Tandis que Don Salluste et Don César de Bazan représentent la noblesse d'une monarchie agonisante. On sait combien les symboles sont complaisants. On en met où l'on veut. Seulement celui-ci, en vérité, se moque par trop du monde. Voyez-vous le peuple dans Ruy Blas, dans ce laquais de fantaisie qui a été au collège, qui rimait des odes avant de porter la livrée, qui n'a jamais touché un outil et qui, au lieu d'apprendre un métier, se chauffe au soleil et tombe amoureux des duchesses et des reines. Ruy Blas est un bohème, un déclassé, un inutile. Jamais il n'a été le peuple. D'ailleurs, admettons un instant qu'il soit le peuple. Examinons comment il se comporte. Tâchons de savoir où il va. Ici, tout se détraque. Le peuple, poussé par la noblesse à aimer une reine, le peuple devenu grand ministre et perdant son temps à faire des discours, le peuple tuant la noblesse et s'empoisonnant ensuite, quel est ce galimatia? Que devient le fameux symbole si le peuple se tue sottement, sans cause aucune, après avoir supprimé la noblesse, la société est finie? On sent ici la misère de cette intrigue extravagante, qui devient absolument folle dès que le poète s'avise de vouloir lui faire signifier quelque chose de sérieux. Je n'insisterai pas davantage sur les énormités de Ruy Blas au point de vue du bon sens et de la simple logique. Comme poète lyrique, je le répète, l'œuvre est d'une facture merveilleuse. Mais il ne faut pas une minute vouloir y chercher autre chose, des documents humains, des idées nettes, une méthode analytique, un système philosophique précis. C'est de la musique et rien autre chose. J'arrive à un second point. Ruy Blas, dit-on, est un envolement dans l'idéal. De là toutes sortes de précieux effets. Il agrandit les âmes, il pousse aux belles actions, il rafraîchit et réconforte. Qu'importe si ce n'est qu'un mensonge. Il nous enlève à notre vie vulgaire et nous mène vers les sommets. On respire, loin des œuvres immondes du naturalisme. Nous touchons ici le point le plus délicat de la querelle. Sans le traiter encore à fond, voyons ce que Ruy Blas contient de vertu et d'honneur. Il faut d'abord écarter Don Salluste et Don César. Le premier est Satan, comme dit Victor Hugo. Quant au second, malgré son respect chevaleresque de la femme, il montre une moralité douteuse. Passons à la reine. Cette reine se conduit fort mal en prenant un amant. Je sais bien qu'elle s'ennuie et que son mari a le tort de beaucoup chasser. Mais en vérité, si toutes les femmes qui s'ennuient prenaient des amants, cela ferait pousser des adultères dans chaque famille. Enfin, voilà Ruy Blas. Et celui-là n'est qu'un chevalier d'industrie, qui dans la vie réelle passerait en cour d'assises. Et quoi? Ce laquais a accepté la reine des mains de Don Salluste? Il consent à entrer dans cette tromperie, qui devrait paraître aux spectateurs d'autant plus lâche que Don César, le gueux, l'ami des voleurs, vient de la flétrir dans deux superbes tirades? Il fait plus. Il vole un nom qui n'est pas le sien. Puis il porte ce nom pendant un an, il trompe la reine, une cour entière, tout un peuple. Et c'est vilaini. Il s'en rend coupable pour consumer un adultère. Et il comprend si bien la traîtrise, l'ordure de sa conduite, qu'il finit par s'empoisonner. Mais cet homme n'est qu'un débauché, qu'un filou. Mon âme ne s'agrandit pas du tout en sa compagnie. Je dirais même que mon âme s'emplit de dégoût, car je vais malgré moi au-delà des vers du poète. Dès que je veux rétablir les faits et me rendre compte de ce qu'il ne montre pas, je vois alors ce laquais dans les bras de cette reine, et cela n'est pas propre. Au fond, Ruy Blas n'est qu'une monstrueuse aventure qui sent le boudoir et la cuisine. Victor Hugo a beau emporter son drame dans le bleu du lyrisme, la réalité qui se trouve par-dessus est infâme. Malgré le coup d'aile des vers, l'effet s'impose. Cette histoire n'est pas seulement folle, elle est ordurière. Elle ne pousse pas aux belles actions, puisque les personnages ne commettent que des saletés ou des gredineries. Elle ne rafraîchit pas et ne réconforte pas, puisqu'elle commence dans la boue et finit dans le sang. Tels sont les faits. Maintenant, si nous passons aux vers, il est très vrai qu'ils expriment souvent les plus beaux sentiments du monde. Don César fait des phrases sur le respect qu'on doit aux femmes. La reine fait des phrases sur les sublimités de l'amour. Ruy Blas fait des phrases sur les ministres qui volent l'État. Toujours des phrases. Oh, des phrases, tant qu'on en veut. Est-ce que, par hasard, les vers seuls seraient chargés de l'agrandissement des âmes? Mon Dieu, oui. Et voilà où je voulais en arriver. Il s'agit simplement ici d'une vertu et d'un honneur de rhétorique. Le romantisme. Le lyrisme met tout dans les mots. Ce sont les mots gonflés, hypertrophiés, éclatants sous l'exagération baroque de l'idée. L'exemple n'est-il pas frappant? Dans les faits, de la démence et de l'ordure. Dans les mots, de la passion noble, de la vertu fière, de l'honnêteté supérieure. Tout cela ne pose plus sur rien. C'est une construction de langue bâtie en l'air. Voilà le romantisme. J'ai étudié à plusieurs reprises l'évolution romantique. Et il est inutile que je recommence une fois encore l'historique de ce mouvement. Mais je veux insister sur le fait qu'il a été une pure émeute de rhétoriciens. Le rôle de Victor Hugo, rôle considérable, s'est borné à renouveler la langue poétique, à créer une rhétorique nouvelle. On s'est battu en 1830 sur le terrain du dictionnaire. La langue classique se mourait d'anémie. Les romantiques sont venus lui donner du sang par la mise en circulation d'un vocabulaire inconnu ou dédaigné, par l'emploi de tout un monde d'images éclatantes, par une façon plus large et plus vivante de sentir et de rendre. Mais si l'on sort de cette question du langage, on voit que les romantiques ne se séparaient pas des classiques. Comme eux, ils restaient déistes, idéalistes, symboliques. Comme eux, ils costumaient les êtres et les choses. Ils les mettaient dans un ciel de conventions. Ils avaient des dogmes, de communes mesures, des règles. Même, il faut ajouter que le lyrisme emportait la nouvelle école dans l'absurde beaucoup plus loin que la vieille école classique. Les poètes de 1830 avaient bien élargi le domaine littéraire en voulant introduire l'homme tout entier, avec ses rires et ses larmes, en donnant un rôle à la nature, mis en œuvre par Rousseau depuis longtemps. Mais ils gâtaient ces libertés conquises, ils en abusaient d'une étrange manière, en sortant du premier coup hors de l'humanité et hors des choses. Par exemple, s'ils s'inquiétaient de la nature, s'ils la peignaient, au lieu de l'étudier comme un milieu exact complétant les personnages, ils l'animaient de leurs propres rêves, la peuplaient de légendes et de cauchemars. De même pour les personnages, ils se flattaient d'accepter tout l'homme, chair et âme, et leur premier besoin était d'enlever l'homme dans les nuages, d'en faire un mensonge. Alors fatalement, il arrivait que les classiques, avec leurs abstractions, leur monde raidi et mort, étaient encore plus humains, plus près de la vérité, plus logiques et plus complets que les romantiques, avec leur horizon vaste et les nouveaux élans de vie qu'ils employaient. Une évolution accomplie par des poètes lyriques devait aboutir là. C'est ce que nous constatons nettement à cette heure. Le lyrisme, dans une littérature, est l'exaltation poétique échappant à toute analyse, touchant à la folie. Victor Hugo n'est donc qu'un poète lyrique. Tout en lui est d'un rhétoricien de génie, sa langue, sa philosophie, sa morale. Et ne cherchez pas sous les mots ni sous les rythmes, car, je le dis encore, vous y trouveriez le chaos le plus incroyable, des erreurs, des contradictions, des enfantillages solennels, des abominations pompeuses. Aujourd'hui, quand on étudie le mouvement littéraire depuis le commencement du siècle, le romantisme apparaît comme le début logique de la grande évolution naturaliste. Ce n'est pas sans raison que des poètes lyriques se sont produits les premiers. Socialement, on expliquerait leur venue par les secousses de la Révolution et de l'Empire. Après ces massacres, les poètes se consolaient dans le rêve. Mais ils venaient surtout parce que, littérairement, ils avaient une besogne considérable à accomplir. Cette besogne, c'était le renouvellement de la langue. Il fallait jeter l'ancien dictionnaire dans le creuset, refondre le langage, inventer des mots et des images, créer toute une nouvelle rhétorique pour exprimer la société nouvelle. Et seuls peut-être des poètes lyriques pouvaient mener à bien un pareil travail. Ils arrivaient avec la rébellion de la couleur, avec la passion de l'image, avec le souci dominant du rythme. C'étaient des peintres, des sculpteurs, des musiciens qui poursuivaient avant tout le son, la forme, la lumière. Pour eux, l'idée ne venait qu'au second plan. Et l'on se souvient de cette école de l'art pour l'art, qui était le triomphe absolu de la rhétorique. Tel est le caractère essentiel du lyrisme. Un chant. La pensée humaine échappant à la méthode et s'envolant en mots sonores. Aussi peut-on constater quel éclat notre langue a pris en passant par cette flamme des poètes. Mettez au commencement du siècle une littérature de savants, pondérée, exacte, logique, et la langue, affaibli par 300 ans d'usage classique, restait un outil émoussé et sans vigueur. Il fallait, je le répète, une génération de poètes lyriques pour empanacher la langue, pour en faire un instrument large, souple et brillant. Ce cantique des cantiques du dictionnaire, ce coup de folie, des mots hurlants et dansant sur l'idée, était sans doute nécessaire. Les romantiques venaient à leur heure. Ils conquéraient la liberté de la forme, ils forgeaient l'outil dont le siècle devait se servir. C'est ainsi que tous les grands États se fondent sur une bataille. Nous verrons plus loin quel État allait se fonder grâce à la bataille romantique. La rhétorique avait vécu. L'idée pouvait passer et se formuler grâce à la langue nouvelle. Il faut donc saluer, dans Victor Hugo, l'ouvrier puissant de cette langue. Si en lui l'auteur dramatique, le romancier, le critique, le philosophe sont discutables, si le lyrisme, le coup de démence sublime, arrive toujours à détraquer à un moment ses jugements et ses conceptions, il a été quand même, et partout, le rhétoricien de génie que je viens d'étudier. Elle est la raison de la souveraineté qu'il a exercée et qu'il exerce encore. Il a créé une langue. Il tient le siècle, non par les idées mais par les mots. Les idées du siècle, celles qui le conduisent, ce sont la méthode scientifique, l'analyse expérimentale, le naturalisme. Les mots, ce sont ces richesses nouvelles de termes exhumés ou inventés, ces images magnifiques, ces tournures superbes dont l'usage est devenu commun. Au début d'un mouvement, les mots écrasent toujours l'idée, parce qu'ils frappent davantage. Victor Hugo est royalement drapé depuis sa jeunesse dans le manteau qu'il s'est taillé en plein velours de la forme. À côté de lui, Balzac apporte l'idée du siècle, l'observation et l'analyse. Et il semble nu, on le salue à peine. Heureusement, plus tard, l'idée se dégage de la rhétorique, s'affirme, règne avec une force souveraine. Nous en sommes là. Victor Hugo reste un grand poète, le plus grand des poètes lyriques. Mais le siècle s'est dégagé de lui. L'idée scientifique s'impose. Dans Ruy Blas, c'est le rhétoricien que nous applaudissons. Le philosophe et le moraliste nous font sourire. Pour ne pas achever sur une critique aussi virulente d'une pièce que je trouve pour ma part très belle, je vous propose de finir sur un entretien avec Victor Hugo qui a été retranscrit par Alfred Barbou dans son texte « La vie de Victor Hugo, Victor Hugo et son temps » (1886). Bien souvent, j'ai eu l'occasion de le voir et de l'entendre. Il m'a fait l'honneur de m'inviter maintes fois à sa table et il m'a été permis souvent aussi de l'entretenir seul à seul. Mais de ces conversations privilégiées, celle qui m'a le plus frappée et qui est le plus fidèlement restée dans ma mémoire, c'est la première, une conversation qui, rue de Clichy, dura plus d'une heure, et que je rapporte ici parce qu'elle touche à une question palpitante, celle de la littérature actuelle. Le hasard mit sur le tapis les romans de nos jours et l'école naturaliste. Il réprouva sans pitié, mais sans colère, les œuvres de cette école. Pourquoi, me dit-il, pourquoi descendre et descendre volontairement? Est-ce pour dire la vérité? Mais les idées élevées ne sont pas moins vraies, et pour moi, je les préfère. Examinez ce simple exemple. Shakespeare, dans Le Marchand de Venise, fait dire à Shylock, parlant des Juifs et des chrétiens, « Ils vivent comme nous, et nous mourrons comme eux. » Voilà la réalité dans son expression la plus simple. Mais je puis l'idéaliser sans qu'elle cesse d'être réelle, et sans qu'elle en soit moins vraie. Je dirais, ils sentent comme nous, et nous pensons comme eux. Ils souffrent comme nous, et nous aimons comme eux. Imaginons au contraire la gamme descendante, nous dirons alors, ils dorment comme nous, et nous marchons comme eux. Ils toussent comme nous, et nous crachons comme eux. Ils mangent comme nous, et nous buvons comme eux. Continuez vous-même. Vous n'achevez pas. Vous ne pouvez pas achever. Mais un autre viendra, qui ne craindra pas de le faire. Un plus hardi ira encore plus loin peut-être. Et ceci n'est que malpropre. Après la malpropreté, il y a l'obscénité. Et j'entrevois un abîme dont on ne peut sonder la profondeur. Il en est de même dans les questions d'art. Courbet, qui avait un grand talent et qui ne manquait pas d'intelligence, il y a des artistes d'un esprit borné, Courbet me disait un jour « J'ai fait un mur vrai, tout à fait vrai. Je me suis donné autant de mal pour le faire qu'Homère a pris de peine pour décrire le bouclier d'Achille. Et ma foi, mon mur vaut bien son bouclier, auquel il manque une foule de choses. Eh bien, lui dis-je, je préfère le bouclier d'Achille. D'abord, parce qu'il est plus beau que votre mur, et ensuite, parce qu'il manque encore quelque chose à celui-ci. Quoi donc? Ce qu'on trouve souvent au pied des murs, et ce qu'un autre, un jour, ne manquera pas d'y mettre pour être plus réaliste que vous. Voilà pourquoi, continua Victor Hugo, je trouve les œuvres réalistes malsaines et mauvaises. Pardon, cher maître, interrompis-je, mais il me semble qu'une de ces œuvres au moins est écrite dans des intentions avouables. Je trouve même une utilité grande dans un tableau saisissant des dangers de l'alcoolisme, dans la peinture du châtiment terrible auquel s'exposent les ouvriers qui quittent l'atelier pour le cabaret, qui abandonnent le devoir pour la débauche. Il est vrai, dit le poète. Néanmoins, le livre est mauvais. Il montre comme à plaisir les hideuses plaies de la misère et l'abjection à laquelle le pauvre se trouve réduit. Les classes ennemies du peuple se sont repues de ce tableau. Voilà comme ils sont tous, disent-elles. Et c'est par elles que s'est fait le succès du livre. Cependant, maître, l'auteur du livre dont il s'agit nous montre d'abord un ménage honnête, heureux par l'ordre et l'épargne. Et c'est comme un enseignement qu'il décrit ensuite la misère et l'abjection qu'amènent la paresse et l'ivrognerie. Peu importe. Il est de ces tableaux qu'on ne doit pas faire. Que l'on ne m'objecte pas que tout cela est vrai, que cela se passe ainsi, je le sais. Je suis descendu dans toutes ces misères. Mais je ne veux pas qu'on les donne en spectacle. Vous n'en avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de nudité sur le malheur. Je sais ce que le peuple souffre. À quel vice, à quel crime entraînent les besoins surexcités, les appétits affamés, la promiscuité bestiale qu'impose la misère du logis. Mais ce n'est pas sa faute à lui, peuple. C'est la vôtre à vous, dont le luxe est fait de cette misère. Et je n'admets pas que vous veniez l'étaler à plaisir avec ses ulcères, ses dartres et ses lèpres, que vous n'avez pas su guérir et que vous contribuez à envenimer. Dans le dernier demi-volume que je viens de faire paraître, je me suis passé la fantaisie de faire un pape. Ce pape, c'est l'évêque Myriel, on le devinera bien, quoique je ne l'ai pas dit, et je lui fais donner des conseils à ses prêtres. Je lui fais dire combien de misères et de souffrances coûtent aux classes pauvres le luxe des ecclésiastiques. Ailleurs, je n'ai pas craint de montrer les douleurs et la honte des misérables. J'ai pris pour personnage un forçat, une fille publique. Mais j'ai écrit ce livre avec la pensée constante de les relever de leurs abjections. Je n'y ai pas failli un seul instant. J'ai pénétré dans ces misères pour les adoucir, pour les guérir. J'y ai pénétré en moraliste, en médecin. Mais je ne veux pas qu'on s'y introduise en indifférente ou en curieux, et nul n'en a le droit. Je n'ai pas hésité non plus à pousser le souci de la vérité jusqu'à un mot que tout le monde sait et que personne n'écrit. Je l'ai fait parce que c'était là le misérable des mots, et que ce titre lui donnait droit à figurer dans mon livre, consacré à toutes les misères. Mais j'ai choisi le moment où sa trivialité devenait sublime, quand le patriotisme en faisait la protestation désespérée de la chute de la grande armée.
Sur ce, je vous salue en espérant que la pièce vous a plu et peut-être aussi que les commentaires critiques vous auront intéressé. À bientôt sur Littérature Audio.